Bonjour, aujourd'hui 31 avant Jésus-Christ, quand Rome est devenue un empire.
Romains, n'oubliez pas que votre mission, c'est de gouverner le monde. Virgile.
D'histoire. On divise traditionnellement les 12 siècles de l'histoire romaine en trois époques, la royauté, la république et l'empire. Après les rois étrusques chassés du pouvoir en 509 avant Jésus-Christ, Rome a connu 5 siècles de république avant qu'Auguste ne devienne le premier des quelques 80 empereurs qui, pendant plus de 500 ans, ont gouverné l'État le plus puissant de l'Antiquité. Quelques-uns d'entre eux, on le sait, avaient une réputation détestable. Ils s'appelaient Caligula, Néron, Domitien, ou le mal nommé Commode, qui était une brute. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils ont laissé un si mauvais souvenir qu'on oublie que l'Empire romain, c'était aussi Auguste, Trajan, Adrien, Constantin, ou cet empereur philosophe, Marc Aurèle, qui, au IIe siècle, a régné pendant près de 20 ans sur un immense empire, qui allait de l'Espagne à l'Arménie et de l'Égypte à l'Écosse.
Prince, grand consul, gouverneur, vous êtes venu des sables déserts de l'Égypte, des montagnes altières de l'Arménie, des forêts touffues de la Gaule et des plaines ensoleillées de l'Espagne. Vous êtes issus de races différentes. Vos mœurs et vos costumes ne se ressemblent guère. Vous avez chacun votre langue et vos chants. Vous n'adorez pas les mêmes dieux. Et pourtant, comme les branches épaisses d'un chêne majestueux, vous êtes tous les ramifications d'un même tronc, puissante et tutélaire. Rome. Ainsi, nous allons connaître tous l'âge d'or de la paix retrouvée. L'ère de la paix romaine.
Lucien Gerfagnon, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, les éditions Talendier viennent de rééditer votre histoire de la Rome antique, 600 pages. Hein, il en fallait pas moins pour rappeler une histoire qui a quand même duré 12 siècles, hein, depuis la fondation légendaire de Rome par Romulus et Rémus jusqu'à la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. Alors, avec vous, nous allons pas parler de l'ensemble de l'histoire romaine, on n'a pas le temps, 26 minutes, mais de ce moment précisément où, et qui est très important dans l'histoire de Rome, où on est passé de la République à l'Empire. Du moins, c'est ce que disent les historiens. Hein, quand Auguste est devenu empereur, en réalité, vous vous dites que malgré les empereurs, Rome est restée jusqu'au bout une république.
Oui, une république avec à la tête un monsieur qui détenait tous les pouvoirs. C'est ici qu'il faudra faire très très attention à ne pas plaquer nos façons de voir, nos idées, nos mots actuels sur un passé qui n'est pas du tout celui qu'on se figure.
Oui, la République et l'Empire n'avaient pas le même sens. Si on les compare, vous dites qu'on fait du chronomorphisme.
Absolument, oui, parce que quand on évoque la République, eh bien, on pense au 14 juillet, on pense tout ça, n'est-ce pas, à tout ça. Et quand on parle de l'Empire, on pense à François-Joseph, on pense à Napoléon Ier, Napoléon III, choses de ce genre. Or, pas du tout. Au fond, ce que nous appelons l'empereur, qui est un impérator, c'est-à-dire celui qui commande l'armée, c'est tout simplement le chargé de pouvoir de l'Empire. C'est la République
à Rome.
C'est la République entre les mains d'un seul.
Alors vous rappelez, Lucien Chaffagnon, que la République aussi à Rome, c'était soi-disant le pouvoir du Sénat et du peuple romain, Senatus Populusque Romanus. En réalité, elle était entre les mains d'une oligarchie d'affaires.
Mais bien sûr, parce qu'on ne votait pas par tête, comme dans nos isoloirs, on votait par tribu. Et comme par hasard, les tribus comportant les VIP, si vous voulez, les gens vraiment importants au point point de vue fortune, avait une priorité très nette sur les autres, si bien que tout à fait à la fin, ça ne valait même plus la peine de voter, le résultat était déjà acquis.
Alors d'où des révoltes populaires, des guerres civiles, et puis la volonté, déjà avant Auguste, de réformer cette république. Il y a eu Sylla en 82 avant Jésus-Christ, et puis alors surtout il y a eu 40 ans après Sylla, le vainqueur de Vercingétorix, Jules César, soupçonné de vouloir restaurer la monarchie et dont les ambitions inquiétaient les partisans de l'ancienne République.
Que veulent dire ces clameurs ? Je crains fort que le peuple ne proclame roi César.
Tu le redoutes, Brutus ? Je pense donc que tu répugnes à cette idée.
C'est vrai, quoique César ait toute mon affection.
Depuis l'époque du déluge, vit-on jamais un homme capable d'illustrer seul la ville ? A-t-on pu dire, jusqu'à ce jour, que Rome était faite pour un seul avec ses vastes murailles ? Oh, tous deux, nous savons que nos pères disaient que ton ancêtre Brutus eût mieux aimé jadis voir régner à Rome le démon éternel qu'un seul roi.
Dis-moi, César s'en rend demain au Capitole ? Alors, bonne nuit, Casca.
Bonne nuit, Cicéron.
C'était un extrait du Jules César de Mankiewicz, d'après l'œuvre de Shakespeare. Jules César assassiné justement au Capitole en 44 avant Jésus-Christ, parce que on le soupçonnait de vouloir restaurer la monarchie. C'était tabou à Rome, l'idée de ces vieux monarques du temps des Étrusques. Hein, ça, c'était insupportable pour beaucoup de républicains qu'on puisse restaurer la monarchie.
Depuis 509, lorsque Tarquin, qu'on appelait le Tarquin le Superbe, dernier roi étrusque, avait connu véritablement de gros ennuis par l'intermédiaire de son fils, enfin une histoire avec le viol de Lucrèce, etc. Et depuis, les Romains ne pouvaient pas entendre parler de roi. C'était tabou. Donc vous voyez le danger qu'il pouvait y avoir à essayer de présenter quelqu'un comme un futur roi pour remettre de l'ordre après des années et des années de perpétuelle guerre civile.
Oui, il y a des guerres civiles, puis 5 siècles de République.
Et puis alors, 5 siècles de République, et ça pouvait être considéré comme une offense au peuple romain.
Cela dit, je crois qu'il n'a jamais voulu officiellement porter ce titre. De toute façon, il a été assassiné avant, en 44, mais il avait des pouvoirs considérables. Et même, il se faisait appeler Impérator, ou on l'appelait impérator. Il faut rappeler que là aussi, ça ne veut pas dire la même chose.
Oui, impérator, ça veut dire celui qui a tout pouvoir sur l'armée. Aujourd'hui, nous pourrions dire, n'est-ce pas, de Monsieur Chirac, président de la République, qu'il est impérator.
chef des armées.
Voilà, il est chef des armées, donc il est impérator. Mais avant lui, c'était Monsieur Mitterrand qui était impérator. Ouais. Bon. Donc, voyez.
Donc, le titre ne signifiait pas empereur au sens où on l'entend aujourd'hui.
Absolument pas.
Alors, il était aussi dictateur. Là aussi, c'est quelque chose.
Le terme de dictateur, c'était autre chose. Ça, c'était un titre qui durait très peu de temps, qu'on donnait à quelqu'un lorsque ça allait vraiment très mal, qu'on nul n'avait été fichu de s'entendre sur les consuls, etc. Alors, quand les choses allaient vraiment très mal, on nommait un dictateur.
Oui, pour 6 mois, sauf que justement, César, Lucien Gerfagnon, s'est fait nommer dictateur à vie.
S'est fait nommer dictateur, et mon Dieu, ça l'arrangeait. Disons que le provisoire durait, quoi. Ça mettait de l'ordre c'est un mot qui me viendrait à l'esprit, mais il ne convient pas sur les ondes, dans un désordre considérable. On ne pouvait pas rester perpétuellement dans cet état. Il fallait donc une main de fer et pas forcément un gant de velours. Ce qui fut fait.
En tout cas, il avait des ambitions, à l'évidence. Il voulait faire. C'est vrai que Rome était déjà, dans les faits, Lucien Gerfagnon, un empire immense qui pouvait difficilement être gouverné autrement que par une profonde réforme de la République.
Oui, absolument, parce que il y avait eu depuis. C'est bien simple, une guerre civile qui a duré 100 ans, j'appelle ça la guerre civile de 100 ans. Une guerre civile qui a duré indéfiniment avec des troubles à l'intérieur de Rome, les gens se faisant assassiner continuellement. Et puis économiquement, les gens n'étaient pas très très heureux. si bien qu'on aspirait, disons, à ce qu'une main ferme reprenne un peu tout cela.
Alors la main ferme de César, ben, ça va pas marcher puisqu'il est assassiné en 44. Oui. Cela dit, Lucien Gerfagnon, malgré l'assassinat de César, la République, au sens où on l'entendait autrefois à Rome, n'est pas pour autant sauvée parce qu'il va y avoir la dispute entre ces deux successeurs potentiels, son fils adoptif, Octave, et puis Marc-Antoine.
Et puis Marc-Antoine qui a été son supporter le plus fervent, si vous voulez. C'était même peut-être un peu lui qui l'avait poussé vers cela, d'autant qu'Antoine avait de grandes idées sur l'Orient. Il aurait aimé, tout au fond, qu'un jour l'Orient devint un empire. Et si cet empire avait manqué d'un chef, il se disait que lui aurait très bien fait le nécessaire, n'est-ce pas? C'était...
En tout cas, avant de se livrer une guerre impitoyable, Marc-Antoine et Octave vont d'abord se partager le pouvoir et le monde avec un troisième homme, avec Lépide.
Lépide, oui.
Je crois préférable de continuer le triumvirat. Toi et moi et Lépide. Et c'est parfait. Lépide aura l'Afrique et toutes les îles, toi l'Espagne et la Gaule. Rome et l'Italie demeurent sous notre administration commune à nous trois. Et toi, tout le reste. Alors, avec Lépide en Afrique et toi en Orient, ramener l'ordre à Rome et dans toute l'Italie m'incombera, à ce qu'il semble. Conclu.
Alors c'était le pacte conclu entre Octave et Antoine et Lépide qui se partagent, dites-vous, le pouvoir et le monde, et le monde romain.
En fait, à ce moment précis, avant la terrible bataille qui décida de tout d'Actium, Octave dirigeait l'Occident et Antoine ambitionnait de diriger l'Orient, au point qu'il l'aurait même bien voulu, en s'arrangeant avec Cléopâtre, être l'empereur avant le temps, n'est-ce pas, de ce coin de terre qui était le plus riche d'ailleurs de ce qui sera l'Empire romain.
Avec l'Égypte notamment qui approvisionnait en blé.
Le grenier à blé, c'est pourquoi d'ailleurs on se gardera bien de mettre un sénateur à la tête de l'Égypte, on y mettra toujours des chevaliers directement sous l'œil de ce que nous appelons l'empereur.
Alors justement, Antoine fâche beaucoup les Romains parce que il donne aux enfants qu'il a eus avec Cléopâtre, il donne une bonne partie de l'Empire romain, c'est ce qui va permettre à Octave finalement de l'emporter sur lui. Avec le soutien du Sénat, il va écraser en 31 avant Jésus-Christ, il écrase à Actium dans la mer Adriatique, il écrase la flotte de Antoine et de Cléopâtre, et un an plus tard il va même Antoine va se suicider ainsi que Cléopâtre.
La pauvre Cléopâtre aussi.
Et là Octave se retrouve tout seul, Lépide a disparu des circulations, Octave se retrouve tout seul avec une quantité de pouvoir considérable. Octave qui se fait appeler Auguste à ce moment-là.
Et c'est là que ça devient intéressant parce que Octave n'était pas du tout, n'était ni fou, ni n'abusait de l'alcool. Donc il savait très bien qu'il ne fallait pas se présenter comme roi, parce que c'était extrêmement dangereux. Et comme ça n'était pas un irresponsable, il a tout fait pour donner l'impression au Sénat mon Dieu, qu'il était le fondé de pouvoir de la République. Il s'est même offert le luxe d'offrir, de redonner au Sénat tous les pouvoirs qu'on lui avait donnés, de façon à ne plus conserver que le consulat quand on l'élirait, etc.
Bon, cela dit, c'était facile, parce que quand même au Sénat, il avait placé des hommes à lui. Donc,
mais bien sûr, mais de toute façon, il va être réélu perpétuellement. En même temps, il aura le tribunat, ce qui est très important depuis les Gracques, il aura le tribunat qui lui confère une absolue sécurité, même physique. Il est sacro-saint.
Oui.
Il dirigera absolument tout ce qu'il peut se diriger. Il sera même souverain pontife. Alors imaginez aujourd'hui en France, quelqu'un qui serait président de la République, premier ministre, archevêque de Paris, président de comment ça s'appelle, secrétaire général de la CGT, de FO, etc., en même temps, et qui aurait tout ça en sa main, et en plus, ça lui aurait été offert.
Ben c'est l'Empire, c'est pas la République, là, justement, Lucien Gerfagnon.
Oui, mais les formes sont respectées. Il y aura toujours des consuls élus, dont Octave, perpétuellement réélu, mais il y aura toujours Tartampionus à côté, un type obscur, n'est-ce pas, qu'on mettra à côté pour faire joli, pour qu'il y ait les deux consuls, toujours.
À côté donc de Octave, qui prend le nom d'Auguste, hein.
Oui, on le lui offre.
Ça veut dire quoi, Auguste?
Augustus, ça veut dire le très grand, oui.
Accumulant en tout cas tous les pouvoirs d'un roi, et cela sans aucune espèce de résistance de la part des Romains. Au contraire, la revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, curieusement, Auguste bénéficie d'un véritable consensus, hein. Il est pour tous les Romains l'homme de la paix retrouvée. Sur une inscription de l'époque, on peut lire, par exemple, « La nature accorde aux hommes la plus grande des faveurs en leur donnant César Auguste, père de la patrie. Aujourd'hui, la paix règne sur la terre et sur la mer, les villes fleurissent dans l'ordre, la concorde et la prospérité. » Pour l'écrivain d'Alexandrie, Philon le Juif, Auguste, dit-il, est celui qui sut dominer une situation troublée et confuse dès le moment où il accéda aux responsabilités du pouvoir suprême. C'est lui qui apaisa les tempêtes qui, de toutes parts, faisaient rage. C'est lui qui a civilisé toutes les peuplades farouches et sauvages. Un autre poète, Crinagoras de Mytilène, un beau nom, compare la force d'Auguste à celle de Zeus. La puissance de Rome ne sera jamais ébranlée, dit-il, aussi longtemps qu'elle aura confiance dans les auspices de César. Ainsi, les chaînes sacrées de Zeus restent fermement debout sur leurs racines. Pour le poète Properce, Auguste a été directement inspiré par le dieu Apollon, qui lui dit « Auguste, sauveur du monde, supérieur à tes ancêtres troyens, c'est pour toi que combat mon arc, c'est toi que seconde le carquois qui charge mes épaules, délivre ta patrie de la peur. » Mais le grand poète du règne d'Auguste, c'est bien sûr Virgile, qui dans l'Énéide immortalise Auguste à sa victoire d'Axiome. « Sur les flots d'Airain, écrit Virgile, sur la mer qui bouillonne, on voit César Auguste entraînant l'Italie au combat, avec les sénateurs, le peuple, les pénates et les grands dieux. Il est debout sur la haute poupe. De ses tempes radieuses jaillit une double flamme, et sur sa tête brille l'astre paternel. » Ah, Auguste va conserver longtemps cette image quasi divine. En 16 avant Jésus-Christ, par exemple, le poète Horace lui adresse cette ode. « Toi qui es né grâce à la bonté des dieux, dès que ton visage, à l'instar du printemps, a brillé pour le peuple, le jour arrive plus agréable et les soleils resplendissent davantage. » Et un siècle plus tard, le philosophe Sénèque, lui, donne une vision un peu moins glorieuse de la prise de pouvoir d'Auguste. Il écrit que Rome, alors minée par les guerres civiles et la discorde, accepte de confier le gouvernement à un seul homme, comme si elle était ramenée à une seconde petite enfance. Pour Sénèque, la République n'était plus alors qu'une vieille dame, ayant besoin pour se soutenir d'une canne, c'est-à-dire d'un homme providentiel, Auguste.
Alors, Lucien Jaffagnon, là, à part Sénèque, mais qui n'écrivait un siècle après Auguste, vraiment, il fait l'unanimité. Auguste César aussi, hein, c'est un nom qu'auront tous les empereurs. César Auguste, il fait l'unanimité. Personne ne défend l'ancienne République.
Oui, et c'est même très émouvant de tomber sur certains textes, comme cet éloge funèbre d'une matrone romaine, un brave homme qui a perdu sa femme, et il a vécu tout ce temps-là des difficultés, des proscriptions et autres, n'est-ce pas ? Et il avait comme soutien sa pauvre épouse, et il, enfin, n'est-ce pas, depuis l'arrivée d'Octave Auguste, bon ben maintenant ça va, on est sorti. Il dit ça beaucoup mieux que je ne le dis là, en vers ciselé, mais enfin c'est le message est là, vous voyez.
Le prix que payent les Romains pour la paix que leur donne Auguste, c'est quand même leur liberté. Ils n'en ont plus beaucoup. Il détient, on l'a vu, tous les pouvoirs. Il y a les proscriptions, comme vous dites, quand on n'est pas dans la ligne d'Auguste. Ben, un Cicéron en saura quelque chose. D'ailleurs, lui-même, il a été éliminé.
Alors lui, il s'est toujours arrangé pour voter, aller dans le mauvais sens. Le pauvre Cicéron, c'était un type extrêmement intelligent, valable et tout. Mais alors, en politique, tous ses choix étaient détestables.
Vous dites ça parce qu'il défendait la République que vous n'aimiez pas, la République romaine.
La République romaine, oui, bien sûr, oui.
Alors, vous rappelez aussi une chose, c'est que Auguste a été un grand réformateur. Il a fait beaucoup de choses, mais on l'a vu, ses textes viennent de très grands écrivains contemporains d'Auguste. Hein. Il y avait Virgile, Horace, il y a aussi Properce, il y a eu Lucrèce, Sallust. C'était un siècle d'or. Il faut vous rappeler aussi, Lucien Gerfagnon, que Mécène, c'était un ministre d'Auguste. Hein. Le mot Mécène vient de là.
Oui, c'était tout simplement son nom, Mécéna, Calas, n'est-ce pas? Et comme il était très, disons, c'était un bon ministre de la culture, et comme il était généreux envers les gens de lettres, de beaux-arts, etc., le terme de mécène est passé dans la langue. Hein, je cherche qui on pourrait mettre aujourd'hui. Non, je n'en trouve pas. Il vaut mieux garder mécène.
Alors, c'est un règne, le règne d'Auguste, qui a duré 45 ans jusqu'à sa mort en 14 de notre ère. Il était hanté par le problème de sa succession, parce que c'est vrai que l'Empire aurait pu s'arrêter avec Auguste, et puis pas du tout. Il délègue son pouvoir à son fils adoptif. Il n'avait pas d'enfant. Celui qu'il nomme, celui qu'il désigne, c'est comme ça que se sont transmis le pouvoir d'empereur à empereur. Hein, c'était d'abord Tibère qui était un bon empereur, et ensuite c'était un empereur qui a laissé un beaucoup plus mauvais souvenir.
Repose Tibère César. Ave Caligula César.
Je crois revivre mon rêve.
Ce n'est plus qu'un masque. Désormais, tu es César.
César.
César. Empereur de Rome et maître du monde.
Maître du monde. J'aime ce rêve.
C'était Caligula, devenu empereur à son tour en 37 après Jésus-Christ. Lucien Jaffagnon, c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques empereurs qui ont laissé un très mauvais souvenir de ce que pouvait être l'Empire romain.
Oui, mais disons qu'on en a rajouté. Hein. Caligula, qui s'appelait d'ailleurs Gaius ou Caius, Caligula, ça voulait dire la petite Caliga, la petite Grolle, comme on dirait aujourd'hui en termes militaires, parce qu'il avait porté ses chaussures-là à l'armée avec son papa et sa maman autrefois, et ça amusait les soldats. Bon,
Mais Caligula, il y a eu après lui, il y a eu Néron,
le plus dangereux a certainement été Caligula, car il relevait de la psychiatrie lourde. Tandis que Néron était un brave homme qui n'était pas fait pour être empereur. Et s'il a été aussi désagréable, c'est pour deux raisons. D'abord parce qu'il était un peu folingue, on dirait aujourd'hui, de l'Égypte.
Alors, cela dit, l'Empire romain, c'est comme toutes les monarchies, ça dépendait bien sûr de la nature du souverain. On est quand même surpris, Lucien Jaffagnon, de voir qu'il a duré, malgré ses empereurs fous, il n'y a pas eu qu'eux, il y en a eu d'autres, de grands empereurs, mais malgré ses empereurs fous, ça a duré quand même 5 siècles, jusqu'en 476 en Occident. On pourrait même dire plus longtemps, puisque ça s'est prolongé avec l'Empire byzantin.
C'est signe que, mon Dieu, l'idée n'était pas mauvaise de mettre le pouvoir entre les mains d'un type intelligent, si possible, d'un
mais
type droit,
tous.
Ce qui n'est pas tous, mais beaucoup plus, sont des gens beaucoup plus, j'allais dire, plus démocratiques que ne l'étaient les gens de la République. Les gens de la République, quand ils parlent de liberté, qu'on leur a dont on les a privés, c'était surtout la liberté de piller tranquillement les provinces sans avoir de compte à rendre à personne, de pouvoir de détenir tous les postes à clé.
Mais hein. Parce que c'était pas la République, c'était pas la démocratie, vous le dites, c'était une oligarchie. Cela dit, la liberté, il y en avait pas plus sous l'Empire, pas plus que d'ailleurs sous les empires qui se sont inspirés, dit-on, de l'Empire romain. Il y a eu ensuite, plus tard, Charlemagne, il y a eu Napoléon, il y a eu les empereurs d'Allemagne. D'ailleurs, il faut pas oublier que le Kaiser en Allemagne, ça vient de César, comme le Tsar en Russie.
Oui, Kaiser, Tsar, etc. Oui. C'est le patron, le chef militaire, qui en même temps est un chef civil. Regardez par exemple, vous parliez de Marc Aurèle tout à l'heure. Marc Aurèle a passé sa vie, une bonne partie de sa vie à cheval. Et cependant, c'est un philosophe qui a laissé des choses infiniment intéressantes.
Dans notre civilisation aujourd'hui, qui a été tellement inspirée par justement l'Antiquité grecque ou romaine, cette période impériale, est-ce qu'elle nous a marqué encore aujourd'hui? Les empires ont disparu, du moins formellement.
Oui, mais encore et toujours, ne serait-ce que la nostalgie, quelquefois, la preuve, voyez, en est dans tous ces films dont je me méfie toujours un peu, qui m'amusent beaucoup d'ailleurs, parce que c'est plein d'anachronismes et demain. Mais si on pense tellement souvent à cela, si on représente ça très souvent, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il reste quelque chose de cet univers immense, vous le disiez tout à l'heure, qui allait de la Bretagne jusqu'à chez Kadhafi pratiquement, comment s'appelle-t-il,
Saddam Hussein.
Dans ce moment, oui, Saddam Hussein.
Et même au-delà, hein,
et puis alors, tout à fait en haut, ça monte jusqu'au Northumberland, et c'est quand même pas mal, hein. Et ça, entre les mains d'un monsieur qui n'est pas forcément distrait, et qui a su organiser un monde qui ne l'était pas du tout, et qui règne sur des gens qui se trouvent heureux et qui le disent.
Oui, enfin, quand il disait le contraire, il finissait mal. Hein,
non, c'était pas un régime policier. Ouais. Non, c'est pas un régime policier, beaucoup plus doux que nous l'imaginons.
Merci en tout cas, Lucien Jaffin, de nous avoir rappelé donc la naissance, l'apparition et de l'Empire romain qui a duré 5 siècles. Alors, pour en savoir plus sur l'ensemble de l'histoire romaine, je recommande votre Histoire de la Rome antique, un livre passionnant qui vient d'être réédité chez Talendier et puis écrit aussi avec beaucoup d'humour. À lire également L'Empire romain d'Auguste Domitien, de Claude Briand-Ponsard et Frédéric Hurlet, édité chez Armand Collin dans les collections Campus. Vous avez pu entendre des extraits de deux films de Joseph Mankiewicz, Cléopâtre et Jules César, ainsi que de La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann et enfin Caligula de Tinto Brass. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Christian Buton, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Merci Patrice Gélinet. Demain dans 2000 ans d'histoire, l'esclavage dans l'Antiquité. Il est tout juste 14h sur Inter, le flash Caroline Boudet.
Les médecins lituaniens s'opposent au rapatriement de Marie Trintignant en France. C'est pourtant ce que souhaite la famille de l'actrice. L'équipe médicale craint la mort de Marie Trintignant avant même d'arriver à l'avion. Elle est toujours à l'hôpital de Vilnius dans un état désespéré. La justice lituanienne a ordonné il y a quelques heures le placement en détention provisoire de Bertrand Cantat jusqu'au 14 août. Il est officiellement soupçonné de blessures volontaires graves, un crime passible de 10 ans de prison dans cet état. Face au tribunal, le chanteur de Noir Désir a déclaré qu'il s'agissait d'un accident et pas d'un crime. Il a demandé pardon à la famille qui s'est constituée partie civile dans le cadre de l'enquête parisienne. Quelques heures de répit pour les pompiers dans le sud du pays. C'est l'accalmie depuis ce matin sur le front des incendies. Mais les secours craignent une nouvelle aggravation cet après-midi avec la reprise annoncée du Mistral et de la Tramontane. Dans le Var, l'incendie de la Motte est fixé. Autrement dit, le feu n'est pas encore éteint, mais il progresse lentement. Et à Salon de Provence, les pompiers ont annoncé que l'incendie est circonscrit. Hier, deux soldats du feu avaient été grièvement brûlés en combattant les flammes. Nicolas Sarkozy va organiser en septembre une conférence sur les incendies avec l'ensemble des sapeurs-pompiers et des services de secours. Le ministre de l'Intérieur espère ainsi tirer des enseignements des incendies qui ravagent cet été le sud de la France, et ce pour améliorer les moyens de prévention et de lutte. Le gouvernement ouvre la voie à une future privatisation de France Télécom. Le Conseil des ministres a adopté il y a quelques heures un projet de loi qui autorise l'État à descendre sa participation sous la barre des 50%. Précision du porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé, la privatisation est rendue possible, mais elle n'est pas à l'ordre du jour.